du nord-est de l'Algérie.
De 10 pour Al Ahly du Caire en Ligue des Champions de la CAF après avoir battu en finale les Sud-Africains des Kaizer Chiefs à Casablanca au Maroc. Bonsoir et bienvenue sur Sporama. Au micro, Élisée Rumpati. On va bien parler de cette finale, précédée évidemment d'une réunion du comité exécutif de la CAF, d'où d'importantes décisions ont été prises. Mais on va d'abord saluer nos consultants, Lawal Dine Kosuro, qui est avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir auditeurs de VOA Afrique.
On prend la direction de Cotonou pour retrouver Albert Ogoudedji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Bonsoir Élisée, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Amine Birouk, lui, est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Lise, bonsoir à tous.
Et puis, on retrouve Amédine Si, bien installé dans l'Oyo. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Lise, bonsoir à tous les auditeurs de la VRC.
Sporama, ce soir, c'est aussi les Jeux Olympiques qui démarrent vendredi prochain avec les dernières préparations des athlètes africains. Bienvenue à tous. National Al Ahly du Caire a remporté la 10e Ligue des Champions de son histoire après sa victoire lors de la finale disputée au Maroc face à Kaizer Chiefs. Tenus en échec à la pause, les Égyptiens ont profité de leur supériorité numérique en seconde période pour battre les Sud-Africains 3-0. Amin, Al Ahly conserve donc son titre et s'installe un peu plus au sommet du foot africain.
Logique respectée, Élisée. Puisque l'équipe d'Al Ahly a mis peut-être du temps à carburer, à trouver les bonnes solutions face à une équipe de Kaizer Chiefs ultra défensive, mais Al Ahly a fait parler son métier, son expérience, son ADN d'équipe championne pour remporter sa 10e Champions League, un succès net et sans bavure 3-0. Une équipe d'Al Ahly qui a dominé territorialement, qui a profité pendant la première mi-temps pour planter les premières banderies. Il y a eu l'expulsion d'un joueur sud-africain et puis après les arrêts de jeu, dès le début de la deuxième mi-temps, une nette accélération qui a permis 3 buts. L'Ahly est le 2e club de l'histoire du football à gagner 10 titres continentaux après le Real Madrid en Europe. Autant dire que l'équipe égyptienne a parfaitement maîtrisé son sujet et qu'elle mérite logiquement le titre de roi d'Afrique au niveau des clubs. On verra dans quelle mesure il pourra continuer à truster des titres avec cette nouvelle formule de Super League en prévision. Mais l'appétit est souvent venu en mangeant et l'Ahly aujourd'hui est un ogre du football africain.
Il faut dire qu'à la veille de cette finale, la CAF a réuni son comité exécutif pour débattre de plusieurs sujets cruciaux, notamment la fameuse Super League et surtout l'organisation d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et sur ce point, Amine, le président de la CAF a affiché son soutien sans grande ferveur et juge que l'Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire.
L'idée en elle-même a été débattue à la FIFA lors du dernier conseil et les représentants de l'Afrique l'avaient soutenue. Je ne conçois pas une décision des représentants africains sans concertation avec Patrice Motsepe, avec les membres du comité exécutif. Et visiblement, l'objectif pour eux, c'est que l'Afrique soit présente dans le process de décision de manière et qu'elle puisse peser dans le process de décision et qu'ensuite les répercussions, plutôt les retombées d'une Coupe du Monde tous les 2 ans soient favorables aux intérêts du football africain avec des représentants qui seraient au nombre de 10, puisque nous sommes passés à une Coupe du Monde à 48, et aussi l'objectif de voir l'Afrique remporter ou arriver au moins dans le dernier carré de cette compétition. Les retombées financières pourraient être également importantes pour le continent. C'est en tout cas ce qu'a présenté le président de la CAF lors de la conférence de presse qui a suivi le comité exécutif. Maintenant, il y a un mot pour pouvoir qualifier cette décision et surtout voir ses répercussions sur l'avenir. Wait and see.
Amédine Si, ce sera un changement majeur dans le calendrier de la CAF. Difficile d'imaginer la CAN se tenir une année sur deux avec également une Coupe du Monde tous les 2 ans.
Ah oui, Élisée, si jamais le projet d'organiser la Coupe du Monde de football tous les 2 ans contre 4, comme le veut la FIFA, se concrétise, ce sera une grande révolution, hein, car depuis la création de cette compétition en 1930, la périodicité a toujours été de 4 ans. Il faut dire, Élisée, que cette compétition a eu lieu pour la première fois en 1930 en Uruguay. Et depuis lors, elle se déroule tous les 4 ans, sauf en 1942 et en 1946, en raison de la Seconde Guerre mondiale, Élysée. Donc, si jamais ce projet se concrétise, ce sera donc un grand chamboulement. En tout cas, au niveau de la Confédération africaine de football, on soutient ce projet, car pour les responsables de la Confédération africaine de football, l'Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire d'un mondial tous les 2 ans. Mais j'espère, Élysée, que si le mondial se joue tous les 2 ans, les responsables de la FIFA ne vont pas mettre la pression sur les dirigeants africains pour qu'ils organisent la CAN tous les 4 ans, car Gianni Infantino veut cela. J'espère que les dirigeants africains vont maintenir aussi la CAN tous les 2 ans, Élysée.
Albert, par rapport à la Super League africaine, Patrice Motsepe est resté flou sur les détails du projet, même s'il a chargé son deuxième vice-président de conduire sa création.
Oui, Patrice Motsepe est resté flou parce que la CAF, tout le monde constate qu'elle est en train d'aller peut-être un peu plus vite que la musique, avec un tournoi, une compétition qui n'est pas encore définie, mais qui est annoncée. Ça sent clairement la petite influence de la FIFA, un projet porté par la FIFA, et donc la CAF est obligée de rentrer dans le jeu. Patrice Motsepe n'avait pas forcément les arguments conséquents pour nous dire tout de ce tournoi, et d'ailleurs c'est que maintenant que les idées vont être rassemblées pour savoir maintenant comment définir la compétition. Donc Motsepe est resté flou logiquement parce qu'il ne savait pas grand chose, il n'avait pas grand chose à nous dire sur ce tournoi là qui arrive prochainement.
Lawal, pas encore de Super League donc, et on sent une manque de sérénité dans les prises de décision.
Oui, Élysée, c'est bien regrettable et que au niveau de la CAF qu'on ne sente pas véritablement cette confiance-là dans ce qui se décide. On ne peut pas, dans ces conditions, dans les conditions actuelles du foot africain, parler de Super League. Et le flou entretenu par le président, par le comité, est bien la matérialité de ce qu'on ne peut pas, dans ces conditions-là, le faire. Souvenez-vous, on a déjà deux compétitions majeures des clubs en Afrique. On a du mal à les organiser au mieux et on veut en rajouter. On a
même la compétition des équipes nationales, la CAN et le CHAN.
On a toutes ces difficultés-là déjà. Maintenant, on veut en rajouter. Et là, je ne sais pas ce qui le prend. Ceux qui ont initié ce projet au niveau de l'UEFA n'ont pas encore véritablement trouvé la bonne formule. Si le projet de Super League a fait l'objet donc d'un point à l'ordre du jour de cette réunion annoncée d'avance, on ne peut pas maintenant ne pas voir clair dans ce qui se passe. Et ça se comprend, l'inexpérience de l'un, le président notamment, dans la gestion des instances de ce genre, fait que on peut avoir des décisions aussi bizarres que incompréhensibles.
Ce qui est incompréhensible d'ailleurs, pour une réunion du comité de la CAF, les membres de la FIFA ont été aperçus dans la salle, notamment le secrétaire général adjoint Mathias Gazprom.
Oui, Élysée, la CAF est comme l'appendice de la FIFA. Toutes les décisions qu'on doit prendre au niveau de la CAF, je ne vais pas dire que ça vient de la FIFA, mais c'est tout comme. Donc aujourd'hui, qu'on tâtonne comme ça, c'est bien compréhensible au niveau de ce comité exécutif.
Le président de la CAF, depuis un moment, voit sa gestion de l'administration pointée du doigt. Il est à constater que depuis son arrivée à la tête de l'institution, les têtes tombent. Plusieurs licenciements ont eu lieu dans un style jugé trop brutal. En effet, dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, une quinzaine d'employés de la CAF ont été avertis par un simple mail que leur mission était achevée sans leur donner le moindre motif. Ce qui n'a rien d'étonnant quand une nouvelle direction arrive, mais la méthode et la manière montrent que ceci ressemble bien à un licenciement abusif. Sans une note officielle ni entretien préalable, comme le prévoit la législation du pays qui habite le siège de la Confédération. Albert, on savait qu'il y avait des tensions depuis l'élection de Motsepe, mais procéder de la sorte ne fera que fragiliser l'institution qui a plus besoin de stabilité dans sa restructuration.
Oui, c'est vrai que la vague de licenciement peut prêter à plusieurs questions, mais la CAF en elle-même aborde quand même un virage assez compliqué. On sent comme si l'union et l'unité qui caractérisaient la famille du football africain est en train un peu de s'effriter. C'est un peu compliqué à tous les niveaux. Certains pays pas contents qu'on leur arrache voilà, un poste, alors que de façon séculaire, pendant longtemps, voilà, le poste revenait à un pays, le poste de secrétaire général par exemple. Donc ça fait que c'est un peu compliqué dans les couloirs et tout ça. Et là, bon, la méthode est un peu forte et forcée, mais quelque part, juridiquement, il n'y a pas encore de drame parce que c'est une nouvelle équipe qui est là, et qui dit nouvelle équipe dit forcément nouvelle tête, dit forcément refonte.
Amédine, consciente de cette bévue, la CAF serait en train de chercher un compromis avec les employés relevés illégalement de leurs fonctions contre une assignation à la justice égyptienne. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Ce licenciement pouvait se gérer autrement?
Tout à fait, Élisée. Je pense que la Confédération africaine de football n'avait pas besoin d'effectuer des licenciements à tour de bras, car cela ressemble à une chasse aux chercheurs, hein, car le fait de licencier une quinzaine d'employés sans préavis est très grave. Il paraît même, Élisée, que ces employés ont été avertis par mail, et cela est inadmissible. Force est de reconnaître, Élisée, qu'on assiste à une opération de décapitation des cadres de la CAF qui sont considérés comme des pros amat, et cela ne doit pas prospérer. C'est pourquoi d'ailleurs, Élisée, en Afrique, beaucoup de gens ont horreur quand même du changement, car à chaque fois qu'il y a changement, il y a toujours une sorte de chasse aux sorcières. C'est vraiment dommage, Élisée.
Amine, tout porte à croire aujourd'hui que la CAF a vidé ses cadres africains pour les remplacer par des Européens venus de la Suisse. En témoigne la nouvelle assistance de Véron Mosengo, l'Italienne Sandra De La Torre.
Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est un changement. On verra s'il est salutaire ou pas en termes de cadre. Mais il est vrai que les représentants de la précédente administration n'ont pas brillé par une gestion cohérente. Et n'ont pas brillé aussi par l'absence de scandale et une présence de transparence dans leur gestion. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, il y a une tutelle de la FIFA qui sera de plus en plus pesante, avec des cadres qui seront appelés à seconder le secrétaire général qui préside à l'administration de la FIFA, avec un président qui n'est pas souvent au Caire. On verra dans quelle mesure les employés qui auraient été licenciés vont recourir à la justice pour pouvoir obtenir gain de cause. Et surtout, s'il n'y a pas également des enquêtes et des dossiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un audit, et que cet audit va certainement pointer du doigt des personnes qui ont été défaillantes dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la précédente administration.
Lawal, c'est quand même bizarre, voire inadmissible, ce qui se passe à la CAF.
Oui, Élisée, on n'a pas à être surpris de voir certaines décisions. Et quand une nouvelle équipe s'installe, on veut forcément contenter ses amis, ses proches. C'est peut-être dans cette logique-là. Mais il y a que avant de licencier quelqu'un, on le prévient 3 mois avant la fin annoncée du contrat. Est-ce que c'est fait dans les conditions? Non. Et l'administration de la CAF a tout faux en licenciant les gens juste par mail. Mais c'est une violence morale qu'on a faite sur ces agents-là. Et Mosengo, avec toute cette expérience-là, cautionne ces gens de bêtises. C'est simplement inadmissible. Mais comme c'est à la CAF, on n'a pas été surpris de voir ces décisions bizarres-là se prendre tout au long de son mandat à Patrice Motsepe.
On termine cette émission avec cette question sur la gestion des équipes nationales africaines des catégories d'âge, surtout des moins de 23 ans, qui pourtant constituent l'antichambre des A, c'est-à-dire les seniors. Un projet a été mis sur pied par la Fédération Congolaise de Football Association en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, prévue en septembre. Et l'instance a engagé les Léopards U23 au tournoi international de la CECAFA, le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et Centrale. Une préparation a été effectuée en Éthiopie sous la direction de Jean-Claude Loboko. Un coup dur pour autant les absences des joueurs évoluant en Europe qui sont bloqués par le club. On retrouve Patrick Lupica pour plus de précisions.
L'extraordinaire attire, mais c'est bien la simplicité qui retient chez le part de la RDC. Le sélectionneur adjoint Guy Boukassa veut panacher et instaurer de la concurrence malgré les absences de plusieurs joueurs évoluant en Europe.
Il y a Gaël Kakoudji du FC Seren qui était déjà là lors de la dernière campagne avec les U23, mais qui était encore très jeune. C'est normal qu'on le laisse faire la prépa avec son club. Il y a William Balikwisha, pareil pour Nelson Balongo qui a toujours été un patriote très volontaire, il n'a pas su répondre. On a eu aussi le cas à Beverly Makangila et Michel Galina, toujours la même raison. Ngakia, on a discuté longuement, il est décidé de jouer pour le Congo, mais là vous voyez, avec son club West Ham, ils sont déjà partis en stage, donc c'était pas facile pour lui de venir.
Des Léopards qui jouent bien et qui doivent apprendre à se faire moins peur en appliquant la philosophie des jeux du nouveau staff technique, Joël Beya, attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert.
Une méthode assez bonne, très technique et très tactique. Beaucoup de discipline défensive aussi et un peu plus dans l'animation offensive.
Non qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique de Nations, des Congolais sont revanchards et veulent laisser des belles impressions en Éthiopie. Exigeants, les supporters attendent des bons résultats, mais en football, il est délicat de comparer les époques.
Depuis Kinshasa, Patrick Lupica, VOA Afrique.
Amédine, avouons que les moins de 23 ans sont mal gérés en Afrique, surtout à la CAF, quand on voit qu'il y a une Euro de la catégorie en Europe.
Oui, Élisée, les équipes nationales des U23 sont mal gérées en Afrique car la CAF n'a pas de compétition réservée à cette catégorie d'âge, contrairement à l'UEFA, mais je comprends un peu l'attitude des responsables de la Confédération africaine de football qui ont du mal à organiser des compétitions au niveau de la petite catégorie. Je veux parler des U12, des U15, des U17 et des U19. Je pense qu'il y a un problème de moyens, mais il faut aussi reconnaître que la majeure partie des joueurs qui jouent dans cette catégorie des U23 ont la possibilité de jouer au niveau de leur équipe nationale locale, mais aussi de la sélection olympique. Mais cela ne doit pas empêcher les responsables de la CAF de faire des efforts pour pouvoir quand même organiser des compétitions au niveau des équipes des U23. Élisée.
Amine, c'est une catégorie qui ne joue que les Jeux olympiques en Afrique. Donc, tous les 4 ans, alors que les fédérations pouvaient l'utiliser pour le CHAN.
Visiblement, l'idée de faire en sorte que le CHAN soit disputé par les sélections de moins de 23 ans revient très souvent dans les discussions que nous, journalistes, avons souvent à l'approche de chaque édition du CHAN et surtout lorsqu'on voit que le tournoi pré-olympique ou la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans ne se déroule que tous les 4 ans, qu'elle implique les sélections de moins de 23 ans et qu'elle n'a que pour objectif de gagner le sésame olympique. Ne serait-il pas plus judicieux de faire en sorte d'avoir une sorte de championnat d'Afrique de moins de 21 ans qui serait corroboré tous les 2 ans par ce fameux CHAN qui impliquerait des joueurs évoluant sur le continent, mais également les meilleures promesses du football africain évoluant ailleurs. Cela pourrait changer la donne en termes de visibilité, d'attractivité de cette compétition qui pour l'instant est trustée par quelques pays, notamment le Maroc lors des 2 dernières éditions, mais qui montre surtout la puissance des championnats les plus structurés de notre continent et non pas les vrais forces vives du football africain qui sont souvent jeunes, qui sont souvent en Europe et qui sont pour l'instant laissés de côté pour une seule épreuve seulement, le tournoi olympique.
Lawal, au Bénin, la sélection U23 dirigée par Bruno Goudjo-Adoula depuis sa nomination ne participe à aucune qualification. Ça relance le débat sur la gestion du football dans ce pays où les dirigeants veulent toujours construire par l'euro.
Oui, Élisée, c'est bien triste pour un pays qui ne pense pas construire la relève et qui croit qu'il faut commencer par les vieillards. Il faut le dire, l'équipe A, c'est la seule équipe qu'on connaît, c'est la seule équipe qui joue, et c'est pour cette seule équipe-là qu'on investit massivement alors qu'on devrait pouvoir préparer la relève. Et l'équipe A aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a pu apporter? Rien de grand en dehors de cet exploit
à la CAN égyptienne, terminée.
Espoir refroidi par cette élimination,
devant la Sierra Leone. C'est bien malheureux, mais on veut faire des réformes. Il faut partir de là aussi. Parce que si le championnat est respecté, respectable, on pourrait peut-être avoir des éliminatoires pour cette catégorie d'âge. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore un championnat digne du nom au Bénin. Ça joue comme en dents de scie, ça va, ça vient. Et dans ces conditions, on ne peut pas espérer construire une équipe et participer à des éliminatoires pour une compétition majeure, encore que ça n'existe pratiquement pas en Afrique, cette compétition majeure pour les U23. Donc c'est bien triste, mais c'est comme ça que se gère le foot africain, malheureusement, Élisée.
Voilà, cette catégorie se joue uniquement aux Jeux Olympiques qui, justement, démarrent vendredi prochain. L'événement se déroulera sans spectateurs, alors que de nombreuses voix au Japon continuent de demander son annulation en raison de la pandémie du coronavirus qui continue de sévir dans le pays. Alors, comment les délégations se préparent-elles pour rejoindre Tokyo dans ces conditions? Yakuba Ouédraogo a joint Fernando Jesus, le secrétaire général du Comité national olympique du Bénin.
Compte tenu des dispositions prises par le Comité d'organisation des Jeux olympiques Tokyo 2020, aucune délégation ne peut envoyer tous ses athlètes d'un seul trait. C'est pour cela que la délégation béninoise va partir à Tokyo par vagues successives. Et la première vague a décollé de Cotonou et se trouve déjà sur place à Tokyo.
Le plus important est que ces jeux aient lieu. Maintenant, en l'absence des spectateurs, il y aura très peu de chances de voir des records exploser. Il y aura très peu de chances de voir les athlètes surmotivés. C'est vous dire donc que être olympien, c'est un attribut qui n'est pas donné à n'importe qui. On va simplement déplorer l'absence du public.
Amine Birouk, l'Afrique est vraiment attendue après les difficultés liées au coronavirus et qui ont privé de compétition certains espoirs de médailles.
Ce sont des Jeux olympiques qui auront une connotation différente puisqu'ils se déroulent sans public, avec la peur d'une contamination au Covid au sein des élections, donc d'où certainement un protocole sanitaire plus strict. Il y aura moins de chaleur, mais on s'attend des performances de la part de nos représentants. L'Afrique est attendue, notamment en athlétisme, avec les athlètes de demi-fond et de fond kényans, éthiopiens, quelques marocains. On verra aussi dans quelle mesure l'Afrique pourra briller dans d'autres disciplines et pouvoir nous honorer. On attend beaucoup de choses de la Tunisienne Ounce Jabeur en tennis, quelques escrimeurs tunisiennes également. Et on verra aussi si les arts martiaux et la boxe ne vont pas apporter leur lot de médailles. Dommage pour l'absence de Consensus Kiproto qui n'a pu gagner sa qualification avec son pays, le Kenya. Et puis les difficultés qu'a eu Caster Semenya qui est monté sur 5000 mètres en raison des restrictions vu son état d'athlète et vu l'interdiction de l'IAF de l'avoir se présenter sur le 800 et le 1500 mètres. Maintenant, il est vrai que ces Jeux olympiques auront un goût bizarre, mais on s'attend à des performances, à des records, à du spectacle et pourvu que l'Afrique puisse gagner au change.
Albert, le continent pourra toutefois se reposer sur le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, le Kenyan Timothy Cheruiyot ou encore la Namibienne Christine Mbumba qui apparemment sont tous en forme.
Ils sont très en forme les Africains, ils vont encore nous émerveiller au niveau de l'athlétisme puisque c'est très souvent l'athlétisme que l'Afrique a réussi sa grosse moisson de médailles, mais ça serait quand même intéressant de voir un Africain champion olympique au triple saut avec Hugues Fabrice Zango. Ça serait intéressant de voir Kani Simbine, médaille olympique et même champion olympique du 100 mètres. C'est possible au regard de sa forme du moment et surtout, ça sera enfin une consécration pour une athlète comme Marie-Josée et Talou, toujours si proche du Graal olympique et qui peut-être cette année est plus en forme que jamais. Peut-être qu'on aura de nouveau et de super médailles olympiques à Tokyo.
Merci Albert. Il faut préciser qu'au total, 33 disciplines seront représentées dans ces Jeux olympiques d'été. Sporama qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. L'information sportive en continu sur notre site internet www.voaafrique.com. À lundi prochain. Au revoir.
Je m'appelle les soldats, J-Max, Hiro, Prince Parolier, le lyriciste. Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle veut plus de moi, car je suis mauvais.
Elle souffre en silence, elle pleure des océans. Ouais. Sous cœur, sous ciment, au fond, elle n'est pas de ciment.
Y a des hauts, y a des bas, mais pas de quoi faire de la raison. Y a des hauts, y a des bas.